Philippines, un pays dominé par l'impérialisme. Les Philippines doivent leur nom aux conquistadors qui, en 1542, arrachèrent ces îles à leurs habitants pour les offrir au futur roi Philippe d'Espagne avant de saccager leurs forêts puis d'y développer des cultures tournées vers le marché métropolitain. En 1898, l'Empire espagnol céda le pays aux États-Unis, qui ne vinrent à bout de la résistance des colonisés que 4 ans et 200 000 morts plus tard. Occupé par les troupes japonaises de 1941 à 1944, les Philippines accédèrent officiellement à l'indépendance en 1946. Mais dès 1947, les États-Unis y installaient des bases militaires, consolidant pour longtemps leur domination. En 1965, les USA firent élire leur protégé Marcos, qui instaura la loi martiale en 1972 et ne se retira qu'en 1986 pour laisser la place à la femme d'un opposant assassiné en 1983, Cory Aquino, plus populaire mais pas moins conciliante avec les intérêts américains. À l'heure actuelle, les attraits des Philippines pour les compagnies américaines sont nombreux. La main-d'œuvre y est jeune, pas chère, presque pas syndiquée et anglophone, idéale pour délocaliser les centres d'appel. Mais les entreprises du textile, de l'électronique et de la chimie ne sont pas en reste. La lenteur avec laquelle les secours, entre parenthèses, entente, nourriture ou médicaments, arrivent aux déplacés ne doit rien au hasard. Si certains des villages les plus reculés ne reçoivent toujours aucune aide, ce n'est pas seulement parce que la géographie des Philippines est morcelée, avec 7000 îles, dont 150 habitées. C'est d'abord parce que pour cet État soumis à l'impérialisme, les priorités budgétaires ne sont pas les services publics, mais l'entretien de forces de répression capables de contenir les explosions sociales. Ce pays dit « émergent » est l'un des plus inégalitaires qui soit. Sa capitale, Manille, offrant un concentré de ses contradictions avec des gratte-ciels ultra-modernes d'un côté et la prostitution à grande échelle de l'autre. Les autorités elles-mêmes reconnaissent qu'entre un quart et un tiers de la population vit dans la pauvreté et que les 4/5 des rémunérations de ceux qui ont la chance d'être salariés partent dans la nourriture, le loyer, les factures d'énergie et l'essence. Un indice qui ne trompe pas est le fait que 10% des Philippins, soit 10 millions, sont forcés d'émigrer pour nourrir leur famille. Les 20 milliards qu'ils renvoient chaque année au pays constituent à eux seuls 10% de la richesse nationale. Les priorités du gouvernement. Tacloban et ses 200 000 habitants ont été frappés de plein fouet du fait de leur position sur la trajectoire du typhon. Mais le bilan humain n'aurait pas été si lourd si les pouvoirs publics avaient fait d'autres choix, notamment celui de fournir des habitations en dur à une population ouvrière en croissance constante depuis 20 ans, au lieu de laisser les migrants s'entasser dans des bidonvilles aussi régulièrement rasées que reconstruites. Les médias occidentaux n'ont pas manqué d'accabler les victimes du typhon elles-mêmes, déplorant le triste spectacle des entre guillemets violences et pillages où entre guillemets les plus bas instincts se seraient déchaînés. Comme si aller se servir dans les décombres des commerces les plus proches n'était pas une question de survie quand on meurt de faim et de soif. En tout cas, les scènes montrant des soldats envoyés faire la garde devant les supermarchés alors que le carburant manquait pour acheminer les vivres en disent long sur l'ordre des priorités fixées par le gouvernement. À défaut de pouvoir éviter le typhon, entre parenthèses, il y en a 20 par an et en 1991, le plus puissant avait déjà fait 5000 morts, les autorités auraient eu les moyens d'évacuer les populations à l'avance vers des refuges si les intérêts de la population n'étaient pas le cadet de leurs soucis. Et maintenant, que vont devenir les survivants du typhon ? À court terme, l'UNICEF déclare avoir besoin de 60 millions de dollars pour réunir les familles éclatées. Les promesses de dons aux associations s'élèvent pour l'instant à 300 millions de dollars. De leur côté, la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale promettent chacune 500 millions de dollars de prêts d'urgence pour la construction d'immeubles aux normes japonaises. Mais il s'agit de prêts, non de dons. Et s'ils alimentent les caisses des géants américains du BTP, on se doute que la population sera la dernière à en profiter. C'est d'autant plus prévisible que la clique au pouvoir ne se gênera pas pour se servir au passage. Le président actuel, Benigno Aquino, entre parenthèses le fils de Cory Aquino, a beau s'être fait élire en 2010 sur un programme anticorruption, le clientélisme du régime est notoire et a mis dans la rue des dizaines de milliers de Philippins en août dernier. Quand on sait que depuis 2001, le gouvernement américain a dépensé plus de 300 milliards de dollars pour sa guerre en Afghanistan, on mesure le caractère dérisoire des aides promises par les gouvernements des pays riches. Il faudra vraiment se débarrasser de ce système capitaliste pour que, face à de telles catastrophes naturelles, la société cesse de se reposer sur l'appel à la charité et mette immédiatement à la disposition des secours tous les moyens matériels et humains nécessaires et prévus à l'avance. F.G.